Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, dans 14-18, petite musique d'une grande guerre, Antonin Scherer raconte la difficile survie du Grand Théâtre de Genève en temps de guerre, partagée entre la tentation chauvine et l'influence française.
Un fait évident et paradoxal à la fois. Lorsque la guerre sévit et que les budgets publics se resserrent, ce sont d'abord les arts, jugés non vitaux, qui subissent les coupes et tremblent sur leur socle déjà fragile, alors que c'est peut-être dans ces instants de doute et d'ombre que les gens en ont le plus besoin. Le Grand Théâtre de Genève, fondé en 1879, et l'Orchestre des concerts d'abonnement qui se produit dans ces murs de la Place Neuve ne font pas exception, malgré la qualité et le succès des spectacles et concerts qu'ils proposent. À l'abonnement, c'est un chef allemand qui tient les rênes depuis 1908, Bernhard Stavenhagen, avec à la clé le grand répertoire germanique des 18e et 19e siècles, et en prime la plupart des œuvres encore toutes fraîches de Gustav Mahler, ami intime du chef, dont les proportions titanesques déchaînent l'enthousiasme. Point fort, la première interprétation mondiale après la création posthume de juin 1912 à Vienne de la 9e symphonie, le 1er février 1913. Côté lyrique, un peu de chauvinisme, à moins qu'il ne faille parler de répertoire populaire, avec la création et les représentations parfois nombreuses de plusieurs ouvrages de compositeurs suisses romands. Aux côtés des Jacques Dalcroze, Lauber et autres seigneux, la palme revient incontestablement au vaudois Gustave Doré, Auteur de la musique de la Fête des Vignerons de 1905, il composera également celle de 1927, grand triomphateur du Festspiel à la romande, pour ne pas dire à la française, sur la scène notamment du Théâtre de Mézières, créé par René Morax, dans la campagne au nord de Lausanne, qui verra notamment la création du Roi David de Néguère. Gustave Doré, donc, qui au Grand Théâtre de Genève présente en 1906 ses Armaïs, une légende dramatique en deux actes qui triomphe dès la première et dépassera la centaine de représentations durant la guerre. La guerre. Août 1914. Malgré le dynamisme du directeur français Constantin Bruni, les caisses sont vides faute de soutien municipal. Il faut repousser l'ouverture de la nouvelle saison. Au lieu de se laisser aller au fatalisme, on prend son destin en main. Les musiciens eux-mêmes demandent au comité des concerts d'abonnement de les patronner pour quelques concerts ponctuels. De santé précaire et allemand de surcroît, Stavenhagen ne peut assurer toutes ses soirées. On se tourne alors vers un jeune chef vaudois qui a fait parler de lui avec ses programmes russes audacieux du côté de Montreux et de Lausanne. Il s'appelle Ernest Ansermet et on n'aura pas à le regretter. Il sera notamment celui qui fera connaître Stravinsky et les ballets russes à Genève. Mais qui dit guerre dit aussi solidarité. Bruni met la salle de Neuve à la disposition de soirées de bienfaisance qui seront de plus en plus nombreuses au fil du conflit. Si sur scène et dans la fosse, la présence de beaucoup d'artistes français et belges peut tenir de la coïncidence, le fait que l'essentiel des bénéfices de ces concerts aillent à des œuvres de secours franco-belges n'en est pas. On le sait peu, la conscience romande a été dès le premier jour du conflit bouleversée par la violation de la neutralité belge, un petit état dans lequel les gens d'ici se reconnaissent sans doute. Sur les pupitres également, la présence du grand voisin en guerre se renforce. Si le phénomène est moins évident à l'opéra, il est très net dans les concerts symphoniques. À l'image de ce programme de janvier 1915 intitulé œuvre de l'école française, avec le compositeur Fernand Le Born au pupitre, un élève de Massenet et de Saint-Saëns. De grandes figures viennent diriger leurs propres œuvres, souvent des nouveautés, comme Joseph Guy Repartz, dont on donne Intermezzo sur les paroles du poète allemand Heinrich Heine, joli symbole, Vincent Dindy, qui amène ses souvenirs et des pages de Delalande retrouvées à la bibliothèque du Conservatoire de Paris, ou Albéric Magnard, tué au début de la guerre, dont résonne le chant funèbre. Cela n'est évidemment pas très gai, mais faut-il pour autant y voir, comme Doré le suggère, l'influence de la propagande française qui menacerait, selon lui, la musique suisse, au même titre que la mainmise des éditeurs allemands. Ce serait oublier que cette tradition d'ouverture vers l'Ouest date de bien avant la guerre et est due en partie, joli paradoxe, à un musicien allemand installé à Genève, Hugo de Senger, qui chercha, selon les propres termes de Doré dans un article du journal de Genève fin 1917, à faire comprendre la nécessité du développement de la race musicale latine en Suisse occidentale. Mouvement naturel donc, qui se prolongera après 1918 avec la création par Ernest Ansermet de l'Orchestre de la Suisse romande. Ansermet, champion des Russes, mais également amoureux fou de Debussy, de Ravel et de la grande tradition française.
Suisse, sont entrés au
Les mots d'un poète allemand, Heinrich Heine, les notes d'un musicien français, Joseph Guy Ropart, extrait du cycle Intermezzo donné en primeur au Grand Théâtre de Genève sous la direction du compositeur durant la Première Guerre mondiale. Vincent Le Texier, baryton, et l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg étaient dirigés ici par Emmanuel Krivine. En guise de postlude, pour tendre une perche vers l'avenir, on évoquait ce lien naturel entre la Suisse et la France, qui d'ailleurs n'est pas incompatible avec celui qui lie de longue date les musiciens d'ici avec l'Allemagne. Je vous propose un petit coup de projecteur sur le plus français des compositeurs suisses, Arthur Honegger, qui se trouve durant cette Première Guerre mondiale à l'heure de l'éclosion. Élève de Vidor et de Dindy, il quitte le Conservatoire de Paris en 1918 après avoir composé son premier quatuor, que l'on entendra en fin d'émission, et son poème symphonique, Le Chant de Nigamon. 1918, année charnière, évoquée par notre regretté confrère à Espace 2 et chef de chœur émérite André Charlet. Véritable tableau express de la musique française au lendemain de la catastrophe.
Comme Darius Milhaud, il va s'installer à Paris en 1911. Il a 19 ans pour y faire des études. Il revient en Suisse en 1914, bien sûr, pour y accomplir son service militaire. Et il vient avec toute sa famille qui habitait le Havre. C'était des importateurs de café, ils étaient très à l'aise. Mais une année après, il revient à Paris, il s'ennuie. Il revient à Montmartre d'abord, puis au 67 boulevard Clichy, où je l'ai rencontré d'ailleurs, où il mourra en 1955. À l'autre bout de la même rue, c'est très intéressant de le savoir, du même boulevard, en face du cirque Medrano, à deux parts de Pigalle, eh bien, il y a Darius Milhaud. C'est l'embryon du groupe des Six, 1920-1921. Alors, Honegger compose pendant la guerre déjà, il est tout jeune, il compose la Rhapsodie pour deux flûtes, clarinette et piano, c'est une petite œuvre, et son premier oratorio, 1918, le dit des Jeux du Monde, sur un texte d'un poète belge dont j'ai oublié le nom. 25 mars 1918, Claude de France, Debussy, s'est éteint. Cette nuit, à 11h45, Stravinsky, l'histoire du soldat, l'embryon des noces, bien sûr, Ragtime. Saint-Saëns, à 79 ans. Gustave Charpentier, qui a triomphé en 1900 avec Louise, à 54 ans. Albert Roussel, lui, 45 ans. Florent Schmitt, 44 ans. Vous voyez comme ils se tiennent de tout près. Henri Bussière, 42 ans. Il est mort à 100 ans, la musique conserve. Georges Auric a 15 ans. Et il s'est déjà fait entendre. Il s'est déjà fait entendre à l'âge de 15 ans. Gustave Doré, le nôtre, a 48 ans. Messager, 61 ans. On joue ses opéras avec plus ou moins de succès. Fauré, 69 ans. Il est sourd. Il mourra en 1924. Il écrit des lettres émouvantes à sa femme. Poulenc, le charmant Poulenc, il y a 15 ans. Il écrit la Rhapsodie nègre pour un petit ensemble instrumental en 1917. André Caplet, une tenue victime de la Grande Guerre. Il est sergent d'infanterie, il est gazé, on ne le sait pas. Et il va mourir en 1925. Jacques Ibert, à 24 ans. Il fait toute la guerre, lui. Roland Manuel, Georges Migaud aussi. Jean Rivier, à 18 ans. Contre l'avis de ses parents, il s'engage. Il va dans les tranchées. Sans rien connaître de la musique, dans les tranchées, il compose une sonate échevelée pour violoncelle et piano qui dure 45 minutes avec 15 thèmes, alors qu'en général, il y a 3 thèmes. Vie et générosité dans cette partition, comme le personnage. Il en sort la croix de guerre, 2 citations. Et Lili Boulanger, nous y reviendrons pour terminer. Les autres sont trop jeunes. Poulenc, Duruflet, Sauguet, Jolivet, Capdevielle, Le Sûr, Olivier Messiaen lui fera la Seconde Guerre, et Jean Français aussi. Mais Lili Boulanger. Lili Boulanger, qui fait mentir Guy de Maupassant. Saviez-vous que Guy de Maupassant a écrit un jour, malgré l'expérience des siècles, qui a prouvé que la femme, sans exception, est incapable de tout travail vraiment artiste ou vraiment scientifique. On s'efforce aujourd'hui de nous imposer la femme médecin ou la femme politique. Mais Lili Boulanger, ce n'est pas la seule d'ailleurs. C'est une des exceptions de la musique, fait mentir ce propos de Guy de Maupassant. Sa courte vie s'est presque terminée en 1914. À l'âge de 2 ans, elle s'appelait Juliette, et Lili, c'est un charmant diminutif. Elle écrit déjà des rondes, elle les chante. Elle lit déjà la musique. À 4 ans, elle chante des mélodies de Fauré. À 6 ans, on lui donne des cours de composition, des cours de contrepoint d'harmonie. Elle joue de tous les instruments. En 1913, elle obtient le Grand Prix de Rome. Et lorsqu'elle est à la Villa Medici, elle est obligée d'en faire les envois de Rome. Alors elle compose des psaumes. Et j'aimerais qu'on puisse écouter l'un de ces psaumes. Parce que avoir à moins de 20 ans une telle maturité et parler de ce psaume 129, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ce n'est pas la guerre, cela. Ils m'ont assez opprimé, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Et cette femme, qui montre une telle profondeur de sentiment tout à fait inattendue de la part d'une jeune fille, est vraiment l'expression de ce qu'il pouvait y avoir, à mon sens, de plus beau et de tourner contre l'intérieur l'anti-soif de vivre des gens pendant la guerre de 14 à 18. Et puis enfin, à la fin de ce psaume, « Porte, élevez vos têtes, porte éternelle, haussez-vous, et le roi de gloire entrera. »
C'était le psaume 129 de la toute jeune Lili Boulanger, un autre jeune musicien, Arthur Honegger, en 1918, premier mouvement de son premier quatuor à cordes. Violent et tourmenté, le premier mouvement du premier quatuor à cordes de Arthur Honegger, composé en 1918, l'interprétation du quatuor Ludwig.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Antonin Scherrer, en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Bastien Meucli, Patrick Lérisset et Philippe Palares.